Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 9h, temps universel avec dans 30 minutes vos réactions sur la présidentielle du mois d'octobre au Cameroun. La classe politique est clairement en ordre de bataille. Les dépôts des candidatures n'est certes pas encore à l'ordre du jour. Le corps électoral sera convoqué 3 mois avant le scrutin. En tout cas, une dizaine d'opposants ont déjà fait part de leur intention de briguer la magistrature suprême. Parmi eux, Maurice Kamto, déclaré deuxième à la dernière présidentielle. Mais pourra-t-il se présenter en portant les couleurs de son parti, le MRC? La question fait débat en ce moment au Cameroun. Autre sujet qui divise l'opinion, la candidature du président Paul Biya. Il ne s'est pas encore déclaré, mais les chefs traditionnels soutiennent cette éventualité, alors que plusieurs évêques à titre personnel s'y opposent. Vos réactions évidemment nous intéressent, vos analyses politiques également. 33 9 693 693 70. L'effervescence électorale à 9 mois de la présidentielle, on en parle donc tout à l'heure sur RFI. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Jimmy est avec nous. Bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour RFI, bienvenue à Bounia.
À Bounia, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, dans l'Ituri. Et vous avez justement des questions concernant votre pays, la RDC.
Exactement. Je voudrais ici condamner l'attitude de belliqueuse du Rwanda. J'en profite aussi pour présenter mes condoléances à toutes les victimes de Goma.
Quelle est votre question?
La ministre des Affaires étrangères demande à plusieurs clubs de football européens de mettre fin à leur partenariat avec le Rwanda. J'ai deux questions là-dessus. En quoi consiste exactement ce partenariat et quelles seraient les conséquences d'une éventuelle rupture?
Alors, 3 clubs sont concernés effectivement par ce partenariat. Bonjour François Mézet.
Bonjour à tous.
Journaliste au service Afrique de RFI, dans une lettre adressée au président de ces clubs européens, Thérèse Wagner demande, je cite, « la fin de ces accords de sponsoring entachés de sang avec un pays agresseur. Si ce n'est pas pour votre propre conscience, faites-le pour les victimes de l'agression rwandaise. » En quoi consistent ces partenariats ?
Alors, rappelez déjà que le premier signataire avait été Arsenal en 2018, accord de sponsoring estimé à 12 millions par an pour apparaître sur la manche des Gunners, et ce n'est pas un hasard, puisque Paul Kagame, on le sait, est un supporter d'Arsenal. Ensuite, il y a eu le PSG en 2019, accord renouvelé en 2022, 15 millions annuels estimés, il court jusqu'à cette année. Et enfin, le Bayern Munich, accord signé en 2023 pour 5 ans. Alors, l'objectif pour le Rwanda, c'est de faire une campagne de publicité à grande échelle sur les maillots de ces 3 clubs parmi les plus populaires et les plus exposés au monde. Une campagne pour promouvoir le tourisme haut de gamme au Rwanda, puisque Visit Rwanda, c'est un slogan du Rwanda Development Board, l'office de tourisme et de développement. En échange, les clubs, eux, s'engagent à développer une activité football dans le pays, des académies pour la formation des joueurs, des entraîneurs, organiser des visites, etc. Et ce qu'ils cherchent, c'est de gagner des fans un petit peu partout. Le PSG, d'ailleurs, a ouvert une école de football avec une centaine d'enfants et des anciens joueurs comme Sergio Ramos, comme Yuri Djorkaeff ou comme Rai se sont rendus au Rwanda. Alors, pour ce qui est des conséquences d'une rupture potentielle, comme on ne connaît pas le contenu des contrats, évidemment, c'est dur de répondre à cette question, mais on peut imaginer que des compensations sont prévues en cas de rupture unilatérale.
Et cette politique porte-t-elle ses fruits ? A-t-elle des résultats ?
Alors, selon la communication officielle rwandaise, oui, ces accords mettent en avant la destination Rwanda, les aspects culturels, les productions locales comme le café ou le thé. Kigali certifie que 600 millions de dollars ont été générés entre 2018 et 2023, des chiffres qui sont difficiles à vérifier puisqu'il s'agit d'un projet cher au président Kagame lui-même. En tout cas, le Rwanda semble suivre l'exemple des pays du Golfe en investissant dans le sport. Ce n'est pas étonnant puisque le Qatar est un partenaire privilégié privilégiés de Kigali. Par exemple, Qatar Airways est actionnaire de 49% de la compagnie Rwandair et le Qatar détiendra 60% des parts du futur aéroport international de Kigali. Le Rwanda, par exemple, a déjà accueilli des matchs de la BAL, la compétition africaine de basket soutenue par la NBA. Il doit aussi recevoir des championnats du monde de cyclisme en septembre et Kigali s'est aussi porté candidat pour accueillir un Grand Prix de Formule 1 dans les prochaines années.
Effectivement. Jimmy, je vous ai coupé la parole. Quelle est votre dernière question ?
Une pétition a même été lancée par un supporter du PSG. Est-ce qu'elle peut réellement faire plier les Paris Saint-Germain pour qu'elle ne renouvelle pas ses partenariats ?
François Mazet.
Alors, il s'appelle Jordan Madiende. Il a lancé une pétition, effectivement, le 27 janvier, qui a dépassé ce matin les 55 000 signatures. Sur la plateforme change.org, il dénonce un partenariat de la honte et il exhorte le PSG à y mettre fin, à prendre position contre les violations des droits humains dans la région des Grands Lacs. Jordan Madiende ajoute qu'il croit fermement que le PSG peut jouer un rôle crucial par son influence et qu'il doit faire un choix courageux et éthique. Est-ce que ça aura une influence ? En tout cas, il l'espère. On l'a entendu hier matin sur notre antenne. Oui. Selon lui, c'est quand même l'équivalent d'un Parc des Princes qui a signé. Donc, ce n'est pas rien. Et puis, on sait que pour les clubs, c'est important d'avoir une base de fans alignée avec ses objectifs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PSG devra trancher cette année sur l'avenir de ce partenariat puisqu'il arrive à échéance.
Oui, 55 613 signatures pour l'instant pour cette pétition et le Parc des Princes a une capacité de 48 500 spectateurs. Voilà pour les chiffres. Jimmy, a-t-on répondu à vos questions ?
En tout cas, satisfait.
Merci à vous de votre confiance. Bonne journée à Bounia et un grand merci à François Mazet, journaliste au service Afrique de RFI. D'autres questions sur la République démocratique du Congo ? Bonjour Ali.
Bonjour Juan Gomez.
Et merci de nous écouter à Rosso, dans le sud de la Mauritanie, pas très loin de la frontière sénégalaise.
Oh. Ok, effectivement, c'est ça.
On vous écoute.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI. J'ai une question par rapport à la République démocratique du Congo.
Oui.
Nous savons que depuis plusieurs jours, les habitants de plusieurs villes congolaises ne parviennent plus à se connecter correctement à certains réseaux tels que TikTok et X. Mm-hmm. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi avoir restreint l'accès à ces réseaux particulièrement et pas les autres comme Facebook ou WhatsApp ?
Ah, bonne question que vous posez, effectivement, Ali. C'est vrai que samedi, les habitants de Goma, de Lubumbashi, de Bukavu ou encore de Kinshasa ont découvert qu'ils ne pouvaient plus actualiser leur fil d'actualité sur les plateformes X et TikTok, deux réseaux effectivement très populaires en RDC. Bonjour Paul Lorgerie.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Cette restriction qui semblait s'appliquer dans quelques villes le week-end dernier, c'est depuis généralisé à travers le pays.
Oui, elle s'est généralisée hier. Alors, selon les données récupérées par l'entreprise britannique NetBlocks, Google Play Store est désormais restreint dans le pays dans le but apparent d'empêcher les utilisateurs de télécharger des applications VPN afin de contourner les restrictions ciblant les deux réseaux sociaux. Alors, les autorités restent très discrètes à ce sujet. Nous avons contacté le Conseil supérieur congolais de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ce que je peux vous dire, en revanche, Ali, c'est que lors d'un briefing à la presse, lundi, le ministre de la Communication et le ministre de l'Intérieur ont assuré que des réunions avaient lieu sur le sujet et que l'accès sera, je cite, « très rapidement rétabli » car il s'agit aussi de questions techniques, selon eux. Mais vous avez raison, Ali. Il est tout à fait étonnant que l'accès aux plateformes X et TikTok soit restreint et non pas à Facebook, à sa messagerie Messenger ou encore à WhatsApp. À jeter un coup d'œil aux données mises à notre disposition par WeSocial, une agence de communication spécialisée dans l'analyse des réseaux sociaux, le nombre d'utilisateurs de Facebook en RDC s'élève à 6,45 millions contre 4,4 millions pour TikTok et 253 000 pour X, bien qu'il soit plus compliqué d'identifier les usagers actifs sur ce dernier. Et concernant WhatsApp, chaque Congolais bénéficiant d'un smartphone et d'une connexion Internet l'utilise quotidiennement.
Effectivement, et on voit le nombre d'auditeurs congolais qui nous suivent sur la chaîne WhatsApp RFI, appel sur l'actualité, c'est évidemment conséquent. Attends tout de même, Paul Lorgerie, une idée sur le pourquoi de cette coupure.
Alors, on peut plus ou moins spéculées, mais de nombreuses informations sont souvent non vérifiées sur ces réseaux et elles peuvent devenir virales. Et dans le contexte de guerre à l'Est que l'on connaît, des internautes spéculent également, que cela soit sur la prise d'une localité par l'armée ou par le M23 ou des attaques qui seraient en préparation. Tout cela fait partie de ce que le ministre congolais de la communication appelle le front médiatique. Sur X, par exemple, les partisans de chacun des deux camps tweetent des photos et des vidéos qui peuvent vite être sorties de leur contexte et donc induire l'internaute en erreur. Le poison rwandais, comme l'appelle le ministre de la communication Patrick Muyaya, lorsqu'il évoque des comptes à la botte du M23 et souvent à la botte du Rwanda. Ce pourquoi, dans une communication lundi, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a demandé aux Kinoises et Kinois de ne pas lâcher face à l'intox et de ne pas suivre tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, des messages souvent qui sont source d'intoxication.
Oui, et certains activistes et observateurs d'Internet s'inquiètent de cette restriction.
Oui, Rouhan. Les personnes que j'ai pu contacter pensent que la mesure pourrait avoir les effets inverses de ceux escomptés. C'est par exemple le cas d'Ange Kasongo, éditrice en chef du site congolais de vérification des faits Balobaki. Elle, qui s'appuie sur un réseau de journalistes à travers le pays, craint que ses collaborateurs ne puissent plus avoir accès aux fausses informations et donc ne puissent plus les réfuter ou, comme on dit, les débunker. Elle craint également que la propagation de ce poison rwandais dont parle M. Muyaya ne puisse plus être endiguée, étant donné qu'aucun point de vue ou narratif ne s'y opposera. Des personnes s'informant via ces réseaux sociaux, et je pense ici à la diaspora congolaise, ne recevront donc plus des informations que d'une seule partie. De son côté, Kemal Afanyon, coordinateur de l'ONG Internet sans frontières en Afrique de l'Ouest, considère que restreindre l'accès à certains types d'informations favorise la circulation des rumeurs et qu'il s'agit là aussi d'une mesure contraire à l'article 23 de la Constitution congolaise qui garantit la liberté d'expression des Congolais.
Voilà, ça pose question. En tout cas, merci beaucoup. Et les questions d'Ali étaient vraiment pertinentes. Je vous souhaite une bonne journée à Rosso.
Ok, à vous aussi, je vous souhaite pareil. Merci,
merci bien sûr à tout le monde. Également à Paul Lorgerie du service Afrique de RFI. 8h22 en temps universel. Vos questions au standard 33 9 693 693 70. Vous nous suivez également en vidéo sur le live de YouTube. C'est en direct, on est là tous les matins. Bonjour Fofana.
Oui, bonjour Juan.
Merci de nous écouter à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et vous avez des questions après la publication d'un rapport accablant sur le sort des migrants en Tunisie.
Tout à fait. Un rapport présenté au Parlement européen accuse la Tunisie d'avoir vendu des migrants à la Libye. Alors, sait-on qui organise ce trafic et quel intérêt y trouve la Tunisie?
Alors, qui organise ce trafic? Bonne question. Je ne sais pas si Lilia Blaise a les réponses à cette question. Bonjour Lilia.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RFI à Tunis. Ce rapport a été rédigé, je le précise, par un collectif de chercheurs anonymes, mais soutenu par plusieurs députés européens. Rapport qui donc met en cause l'État tunisien. Que sait-on de ce trafic?
Alors, on ne sait pas vraiment à quel point il est organisé ou non. Par contre, ce que met en avant le rapport, c'est bien une dénonciation de tous les corps impliqués dans l'arrestation des migrants et leur déportation aux frontières. Donc, ce qui fait parler de trafic d'État ou de trafic institutionnalisé, puisque les autorités tunisiennes sont en charge de ces arrestations et de ces déportations. Le rapport parle aussi d'installation dans des lieux de détention à la frontière libyenne, sans accuser directement l'armée tunisienne, mais en mettant en avant que cette détention se fait dans des zones militarisées et inaccessibles aux médias.
Ouais, c'est toute une économie, Lilia Blaise, qui s'est créée finalement autour de la migration irrégulière.
Alors oui, c'est en effet l'un des intérêts dans ces trafics qui est d'abord pécunier. On sait qu'il y a une économie de la migration qui profite à tous en Tunisie, du constructeur de bateaux à Sfax, au vendeur de moteurs, tout comme aux passeurs. L'enlèvement de migrants aussi est une pratique courante. Lors de mon travail de terrain, j'avais eu des témoignages de migrants qui se faisaient arnaquer par des faux transporteurs à Kasserine, à la frontière algérienne, qui leur proposaient de les emmener à Sfax pour un certain prix. Une fois arrivés, ils étaient pris en charge par d'autres migrants subsahariens qui les enfermaient dans une pièce, leur réclamant de demander à leur famille d'envoyer de l'argent en échange de leur libération.
Donc on comprend bien les enjeux économiques. Y a-t-il des intérêts politiques ?
Sur le plan politique, il y a un intérêt, même si aujourd'hui nous n'avons pas de réaction des autorités tunisiennes sur le sujet, donc il ne faut pas faire un lien direct de cause à effet. Mais concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que parallèlement à ce trafic, on a une réduction drastique des arrivées par mer de la Tunisie vers l'Italie depuis octobre 2023. Selon Frontex, les franchissements irréguliers des frontières de l'UE ont ainsi diminué de 38% en 2024, atteignant leur niveau le plus bas depuis 2021. Et cette baisse est notamment due à une chute du nombre d'arrivées par la Méditerranée centrale, moins 59%, en particulier depuis la Tunisie. Alors le Forum des droits économiques et sociaux, le FTDES, parle aussi d'interception de plus de 100 000 personnes fuyant le pays, dont 80% étaient originaires d'Afrique subsaharienne. En fait, ce n'est pas vraiment qu'il y a moins de migrants qui transitent, c'est juste qu'ils sont violemment empêchés de partir et redirigés vers la Libye, comme le confirme le rapport. Un des témoignages dans le rapport est d'ailleurs très parlant. L'un des migrants, alors qu'il est en train d'être battu par les forces de la garde nationale, entend un agent lui dire « Nous vous traitons de cette manière pour que même si vous avez la force d'un lion, vous ne puissiez jamais revenir en Tunisie. »
Et ce rapport s'appuie sur une trentaine de témoignages. Merci beaucoup Lilia Blaise, correspondante de RFI à Tunis. Fofana, bonne journée, merci de votre confiance et on salue tous ceux qui nous écoutent à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne. Cerno nous rejoint, il est à Maroua, au Cameroun. Bonjour Cerno.
Bonjour Monsieur Rouen, bonjour à tous.
Vous avez une question qui vous intéresse parce que je crois que vous êtes ingénieur.
Oui, je suis ingénieur hydraulicien.
Hydraulicien, et donc vous avez justement des questions concernant les canalisations en France.
Oui, oui. Monsieur Rouen, j'ai appris qu'en France, de milliers de kilomètres de canalisation PVC seraient contaminés par un gaz cancérigène.
Oui.
À cela, j'ai deux questions. Quels sont les risques pour la santé liés à la consommation d'eau acheminée par ces conduites en PVC?
140 000 kilomètres de canalisation seraient effectivement potentiellement empoisonnés par ce gaz qui a la particularité d'être incolore et inodore. Bonjour Gaspard Lemaire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université d'Angers et enseignant en droit de l'environnement à Sciences Po. Vous avez enquêté sur la présence de ce gaz dans les canalisations en France. D'abord, qu'est-ce que ce gaz? Ce gaz qu'on appelle le chlorure de vinyle monomère.
C'est un gaz qui a été synthétisé pour la première fois au 19e siècle. On ne le trouve pas à l'état naturel. Et en fait, c'est cette substance qui est utilisée pour fabriquer un produit qu'on connaît très bien, qui est le PVC. Et le problème, c'est que quand on utilisait ce gaz qu'on a polymérisé à partir des années 1930 pour fabriquer du PVC, au début, les procédés de fabrication, ils étaient imparfaits. Et donc, dans les tuyaux en PVC fabriqués jusque dans les années 80, il y a des résidus de chlorure de vinyle monomère, des résidus de CVM. Et c'est embêtant parce que ce CVM, il est effectivement cancérogène.
Donc, sont concernées les canalisations PVC installées avant les années 1980. Ce gaz est-il vraiment dangereux?
Oui, il est extrêmement dangereux. Donc, il a provoqué énormément de maladies chez les travailleurs qui le manipulaient. Ça a été identifié par les producteurs dans les années 60-70 aux États-Unis, en Europe. Et en fait, il est tellement dangereux qu'il a été classé comme cancérogène certain par le Centre international de recherche sur le cancer en 1987. C'est un gaz qui provoque des angiosarcomes, c'est un cancer du foie absolument fulgurant et qui est très difficile à identifier parce qu'il y a des symptômes qui ne sont pas très spécifiques et qui provoque aussi des carcinomes. Ça, c'est le cancer du foie le plus connu.
Et on a, on a une idée du nombre d'habitants concernés?
Ouais, alors on a une idée assez vague. Il y a une première estimation en 2010 par l'Institut de veille sanitaire, qui est un organe rattaché au ministère de la Santé, qui nous dit 600 000 Français.
Ah oui.
Voilà, il n'y avait pas encore assez de données, mais c'est des centaines de milliers de Français, en gros, qui sont concernés.
Gaspard Lemaire, il nous reste une petite minute et Cerno a une dernière question à vous poser. Allez-y, Cerno.
Quelle solution peut être adaptée pour réduire ou éliminer ce risque pour la population?
Gaspard Lemaire.
Alors, s'il y a une contamination identifiée, il ne faut surtout pas boire l'eau. D'ailleurs, c'est une obligation légale du fournisseur d'eau. Il faut qu'il prévienne les populations pour qu'elles arrêtent de boire l'eau parce que c'est très dangereux. Et ensuite, il faut remplacer les canalisations. Le problème, c'est que la campagne d'identification du problème, elle n'a pas été menée de façon suffisamment rapide. Et donc, il y a plein de gens qui sont concernés par des contaminations, mais qui ne sont pas encore au courant.
Ah oui.
Donc, ils peuvent faire trois choses. Ils peuvent demander des analyses à leur fournisseur d'eau. Ils peuvent écrire à leurs élus pour que les élus interpellent le gouvernement. Et puis, s'il y a une contamination identifiée, ils peuvent se retourner contre l'État et aller devant le juge pour demander une indemnisation.
Mais la solution est de changer les canalisations et ça coûte cher. J'ai lu qu'il fallait compter 100 000 euros pour changer un kilomètre de canalisation. Donc, s'il y en a 140 000...
Alors, on n'est pas obligé de tout changer, mais il va falloir changer une grande partie. Et c'est effectivement des milliards d'euros de dépenses publiques qui vont devoir être engagées.
Merci d'avoir été très pédagogue, Gaspard Lemaire. et d'avoir répondu à Cernot, à Marois. Je rappelle que vos explications, comme celles de tous mes confrères depuis le début de cette première partie, sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Restez avec nous, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et tout de suite après, on sera de retour pour notre débat du jour consacré à la présidentielle du mois d'octobre au Cameroun.